Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir tout le monde. Il est agréable de vous rencontrer de nouveau dans l'émission quotidienne en français de la Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Nous souhaitons que vous restiez toujours en bonne santé et toujours le temps d'écouter nos programmes. Pour ce soir, l'émission sera commencée par le journal, suivi du commentaire, l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point. Et après, nous vous présentons le rappel de titre de l'actualité.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. Le président Jokowi va inaugurer le plus long pont dans l'est de l'Indonésie ce lundi. L'Indonésie signera l'accord de Paris. L'Indonésie finalise le document « Les contributions déterminées au niveau national NDC » pour répondre à l'accord sur le climat de Paris. L'agence de gestion des catastrophes régionales de la province de Riau vole en hélicoptère des bombardiers d'eau à la réserve de la biosphère. L'Indonésie sera l'hôte de Moussabakoh de mémorisation du Coran d'Asie Pacifique. Et enfin, une entreprise alimentaire du Japon s'est intéressée à investir en Indonésie. Voici le journal complet. Le président Joko Widodo va inaugurer le fonctionnement du pont rouge et blanc en ville d'Ambon lundi. Le pont a une longueur d'environ 1400 mètres et le plus long pont en Indonésie de l'Est. Le responsable des relations publiques des Moluques, Bobby Palapia, a expliqué dimanche que le président, la première dame et sa suite arriveront à l'aéroport international Patimura à 17h, heure locale. Selon Bobby Palapia, après avoir inauguré le pont, le président Joko Widodo va passer la nuit dans la ville d'Ambon afin de partir pour la Papouasie demain. L'Indonésie signera l'accord de Paris à New York aux États-Unis le 20 avril 2016, coïncide avec la Journée de la Terre. Cela a été déclaré par la directrice générale pour le changement climatique du ministère de l'Environnement et des Forêts, Madame Nur Masri Patin, dimanche. Jusqu'à présent, selon Madame Nur Masri Patin, de nombreux pays se sont engagés à signer l'accord de Paris et sont d'accord pour maintenir l'augmentation de la température bien en dessous de 2 degrés Celsius. D'après les dernières nouvelles, les États-Unis et la Chine vont signer un accord qui aboutit au sommet sur les changements climatiques ou conférence des parties COP21 Paris. La déclaration politique, selon lui, a été publiée par les chefs d'État et de gouvernement de divers pays à Paris et jusqu'à présent, il reste engagé à signer l'accord de Paris du climat à New York. Les États-Unis et la Chine vont signer et accélérer la ratification. Le gouvernement indonésien finalise le document « Les contributions déterminées au niveau national NDC » à propos de la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 29% en 2020 jusqu'à 2030, conformément à ce qui est présenté au sommet sur les changements climatiques aux conférences des parties COP21 à Paris. La date limite est en fait le 20 avril 2016. Mais basé sur le résultat de la rencontre avec le ministre de l'Environnement et des Forêts, l'Indonésie a ratifié l'accord de Paris non pas avec un chèque en blanc, mais il doit être accompagné au moins le concept de ce qui sera fait pour atteindre les objectifs spécifiques, a déclaré le haut fonctionnaire du ministère de l'Environnement et des Forêts, Bambang Suprianto, dimanche. NDC a vraiment ciblé pour être terminé et prêt à être soumis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, ou CCNUCC, dans la deuxième semaine de novembre 2016. L'Agence de gestion des catastrophes régionales, BPBD, de la province de Riau, vole en hélicoptère de bombardière d'eau du type MI-8, pour résoudre les incendies de la terre et des forêts au réserve de biosphère Guillaume Siak-Til. Le chef de l'Agence de gestion des catastrophes régionales, Riua Edouard Sanger, a déclaré dimanche à Pekanbaru, l'hélicoptère qui commence à opérer à partir de la fin de mars 2016 a fait 50 fois de bombardements d'eau. Il affirmait que les efforts visant à lutter contre les incendies de terre et de forêt avec les bombardements d'eau sur cet emplacement ont réussi à surmonter ces incendies. Sur la base des données de l'Agence de la météorologie, climatologie et de géophysique de Pekanbaru, il y avait seulement un point de chaud dimanche soir de 17 points de chaud dimanche matin. Pendant ce temps, le chef du Centre de la conservation des ressources naturelles de la région de Riau, Supartono, a dit qu'il a demandé l'aide de l'Agence de gestion des catastrophes régionales de faire des bombardements de l'eau dans cette région parce qu'il craint les incendies des forêts et des terres ont le potentiel d'élargir. L'Indonésie sera l'hôte du 7e Moussabako de mémorisation du Coran et le hadith MHQH du prince Sultan bin Abdul Aziz de l'Asie et le Pacifique qui aura lieu du 17 au 21 avril à Jakarta. Le but de cet événement est pour motiver les musulmans à mémoriser le Coran et le hadith ainsi que le contenu. Le prince Faisal bin Sultan bin Abdul Aziz, par déclaration officielle à Republika, récemment cible, Moussabako sera participé par 140 participants de 25 pays tels que l'Indonésie, la Malaisie, Singapour, le Timor-Leste, le Myanmar, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, le Kazakhstan, la Corée du Sud, le Cambodge, la Russie, la Bosnie et la Croatie. Moussabako est organisé en coopération avec Sultan bin Abdul Aziz Al Saud Foundation avec le ministère des Affaires religieuses de la République d'Indonésie. Le marché indonésien qui est assez grand est une attraction pour les entreprises à investir. Le bureau de représentation du Conseil de coordination des investissements à Tokyo a identifié l'intérêt d'une société japonaise qui s'occupe dans le domaine de l'alimentation à investir en Indonésie. Le chef du Conseil de coordination des investissements BKPM de l'Indonésie, Franky Sibarani, a affirmé que cet intérêt était accepté positivement par BKPM. Selon lui, les investissements japonais en Indonésie seront plus diversifiés, non seulement dans certains secteurs comme l'automobile. D'autres choses positives liées à l'intérêt de l'investissement et l'engagement de l'entreprise pour répondre aux besoins de matières premières à utiliser plus tard sont achetées de la société dans le pays. Basé sur les données de BKPM, la réalisation de l'investissement japonais en Indonésie en 2015 a augmenté de 6% par rapport à la période de 2014. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Chers auditrices et chers auditeurs de la Voix d'Indonésie, écoutez maintenant le commentaire intitulé « Est-ce qu'il y aura le prochain remaniement ?» Le remaniement ministériel dans le gouvernement du président Joko Widodo devient une rumeur dans la communauté. Après le remaniement en août 2015, le prochain remaniement est encore un mystère. La question du prochain remaniement est discutée au public depuis novembre 2015 après que le président Joko Widodo a fait le premier remaniement. Mais cette question a été refusée par le président Joko Widodo et vice-président Youssouf Kalla. La même question refait surface en 2016 lorsque le président Joko Widodo a inauguré le Bonded Logistics Center à Cilincing, Jakarta, le jeudi 10 mars 2016. À ce moment-là, le président a rappelé le ministre dans son cabinet pour résoudre immédiatement le problème temps de séjour ou la période d'attente de chargement des marchandises. Le président a déclaré que l'une des causes de remaniement du premier volume était le problème de temps de séjour, dont il a rappelé que ces problèmes ne se reproduisent plus. La question du remaniement ministériel est plus souvent discutée après la rencontre de le président Joko Widodo avec un certain nombre de personnalités et présidents du parti politique récemment. Le remaniement ministériel est entièrement l'autorité du président, mais certains responsables de partis politiques ont mis certains membres qui siégeront au sein du cabinet. Le prochain remaniement sera aussi coloré par beaucoup d'intérêts de diverses parties, parce que, entre autres, le président Joko Widodo n'est pas le chef d'un parti politique. Le remaniement du cabinet affectera la performance des ministres du cabinet de travail du président Joko Widodo et vice-président Youssouf Kalla. Il y a l'incertitude parmi les ministres, qu'ils soient ministres qui seront remplacés ou ils existent encore dans le cabinet. On ne sait pas encore si le président va vraiment remanier le cabinet pour le changement des meilleures performances au sein du gouvernement. S'il y a le remaniement du cabinet, on espère. Ceux qui sont élus sont des gens professionnels ou qui ont une grande intégrité et non pas pour les intérêts de certains partis politiques. Ses amis, c'était le commentaire.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Les amis, que te mettons la rubrique L'histoire de Soudoui, l'édition 4 avril. On commence le 4 avril 1949. L'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, a été créée à Bruxelles, Belgique. Le 4 avril 1949, 12 pays dont la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, le Canada, le Danemark, l'Islande, l'Italie, la Norvège, le Portugal, les États-Unis et la Belgique ont signé la charte fondatrice de l'OTAN. Le contenu principal de la charte de l'OTAN est l'accord des pays signataires pour former une défense commune. Ainsi, toutes les formes d'attaque contre les États membres de l'OTAN seront considérées comme une attaque contre d'autres pays. Les quelques prochaines années, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne et la Turquie ont rejoint l'OTAN. La création de formation de l'OTAN est en fait la conséquence de la situation de guerre froide après la Seconde Guerre mondiale. L'Union soviétique comme pays communiste est considérée par les pays occidentaux comme la menace. En chance, le 4 avril 1960, Sénégal a obtenu son indépendance de la France. Initialement, le Sénégal a été colonisé par les Portugais au XVe siècle, puis la colonie du Sénégal a été reprise par la France au XVIIe siècle. La France a fait une exploitation à grande échelle des ressources naturelles et le peuple du Sénégal. Beaucoup de Noirs sénégalais ont été apportés à la France comme des esclaves. Suite à l'affaiblissement de la puissance militaire de la France après la Seconde Guerre mondiale, le Sénégal a réussi à gagner beaucoup de concessions de Paris, mais il n'a pas encore reçu la pleine indépendance. Le 4 avril 1960, le Sénégal a obtenu une entière indépendance. On termine le 4 avril 1979, Zulfikar Ali Bhutto a été exécuté par le général Ziaul Haq. Zulfikar Ali Bhutto a servi en tant que président du Pakistan et le premier ministre en 1971. Il a commencé à introduire le concept de l'islam socialiste en réformant la législation, la nationalisation de l'industrie, de diviser la terre aux agriculteurs et d'arrêter 2000 fonctionnaires qui ont indiqué à faire la corruption. En 1977, le général Ziaul Mohammed Haq a organisé un coup d'État pour renverser Bhutto et lui accuser d'effectuer des assassinats et la trahison contre l'État. Bhutto a été exécuté par pendaison le 4 avril 1979. Ses amis, c'était notre heure aujourd'hui dans l'histoire ce soir, l'édition 4 avril. À demain.
Vous êtes toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
C'est Exem l'antenne. Pour la suivante, voici donc la mise au point et pour le titre, les efforts du gouvernement pour encourager les industries créatives au monde. Le gouvernement indonésien est déterminé à encourager le secteur des industries créatives et numériques à être inclus dans les points de négociation internationale comme des efforts pour ouvrir des opportunités de marché. Le ministre indonésien du Commerce, Thomas Lembong, le jeudi a révélé à Malang qu'à cette année, le ministère du Commerce priorisera la coopération avec l'Union européenne, l'Australie et l'accord de libre-échange d'Europe et FTA. Il assure qu'il y aura des clauses concernant le secteur numérique et le secteur de la création, ainsi que le secteur des services. Selon lui, certains secteurs numériques et créatifs tels que les produits culinaires, la mode, l'éducation, la culture, le cinéma et l'animation ont de grands potentiels, surtout au 21e siècle. Cet effort est en effet une très nouvelle chose parce que la révolution e-commerce ou le monde numérique vient d'arriver. Comme rapporté l'agence de nouvelles Antara, il y a des négociations internationales qui sont ciblées et finies immédiatement par le ministère du Commerce dans un proche avenir, à savoir l'accord de coopération de libre-échange avec l'Union européenne, dans l'accord de partenariat économique global et l'accord de libre-échange d'Europe avec la Norvège, l'Islande, la Suisse et le Liechtenstein. Thomas a affirmé que dans le développement économique, le secteur des services est plus important que le secteur de la fabrication ou de l'agriculture. Et dans le secteur des services, la plus haute valeur ajoutée est le secteur créatif. Il a ajouté, dans un proche avenir, le ministre du Commerce et le ministre de l'Industrie visiteront l'Union européenne afin d'encourager l'avancement des négociations de l'accord de libre-échange FTA, en particulier avec l'Union européenne. Il présentera les produits créatifs tels que l'animation, des films, des jeux vidéo, etc. Pendant ce temps, le chef de l'économie créative, Triawan Munaf, évalue que, jusqu'à présent, l'industrie créative de l'Indonésie est déjà en cours d'exécution et se développe, mais n'est pas encore maximale. Cependant, dans chaque sous-secteur, il y a des hommes d'affaires qui ont la capacité à la réputation mondiale. Il a expliqué que le Conseil de l'économie créative s'efforcera à améliorer les écosystèmes. L'amélioration des écosystèmes est la priorité des sous-secteurs qui seront menés par le Conseil de l'économie créative et de former des villes créatives pour présenter le potentiel des industries créatives qui existent dans chaque région. Triawan Munaf a expliqué que l'Agence d'économie créative avait élaboré des mesures stratégiques en unissant tous les actifs et le potentiel créatif de l'Indonésie, créer le climat et les écosystèmes de l'économie créative qui pourraient être atteints dans un proche avenir avec la mise en œuvre de la conférence de l'économie créative. L'Agence de l'économie créative a formulé autant que 16 sous-secteurs des industries créatives à développer afin de soutenir l'économie nationale. Pendant ce temps, l'une des villes indonésiennes qui se prépare pour être une ville créative se concentre sur l'animation numérique et Malang à l'est de Java. Comme cité par Kompas.com, le maire de Malang a affirmé « Si le secteur de l'économie créative est géré sérieusement, ce secteur pourrait devenir l'un des moteurs économiques à Malang. » Serviteur, c'était la mise au point pour ce soir. Le président Joko Widodo va inaugurer le fonctionnement du pont Rouge et Blanc en ville d'Ambon lundi. Le pont a une longueur d'environ 1400 mètres et le plus long pont en Indonésie de l'Est. Le responsable des relations publiques des Moluques, Bobby Palapia, a expliqué dimanche que le président, la première dame et sa suite arriveront à l'aéroport international Patimura à 17h, heure locale. Selon Bobby Palapia, après avoir inauguré le pont, le président Joko Widodo va passer la nuit dans la ville d'Ambon avant de partir pour la Papouasie demain. L'Indonésie signera l'accord de Paris à New York aux États-Unis le 20 avril 2016, coïncide avec la Journée de la Terre. Cela a été déclaré par la directrice générale pour le changement climatique du ministère de l'Environnement et des Forêts, Mme Nour Masri Patin, dimanche. Jusqu'à présent, selon Mme Nour Masri Patin, de nombreux pays se sont engagés à signer l'accord de Paris et sont d'accord pour maintenir l'augmentation de la température bien en dessous de 2 degrés Celsius. D'après les dernières nouvelles, les États-Unis et la Chine vont signer un accord qui aboutit au sommet sur les changements climatiques ou conférence des parties COP21 Paris. La déclaration politique, selon lui, a été publiée par les chefs d'État et de gouvernement de divers pays à Paris et jusqu'à présent, ils restent engagés à signer l'accord de Paris du climat à New York. Les États-Unis et la Chine vont signer et accélérer la ratification. Le gouvernement indonésien finalise le document « Les contributions déterminées au niveau national NDC » à propos de la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 29% en 2020 jusqu'à 2030, conformément à ce qui est présenté au sommet sur les changements climatiques aux conférences des parties COP21 à Paris. La date limite est en fait le 20 avril 2016, mais basée sur le résultat de la rencontre avec le ministre de l'Environnement et des Forêts, l'Indonésie a ratifié l'accord de Paris non pas avec un chèque en blanc, mais il doit être accompagné au moins le concept de ce qui sera fait pour atteindre les objectifs spécifiques, a déclaré le haut fonctionnaire du ministère de l'Environnement et des Forêts, Bambang Suprianto, dimanche. NDC a vraiment ciblé pour être terminé et prêt à être soumis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, ou CCNUCC, dans la deuxième semaine de novembre 2016. L'Agence de gestion des catastrophes régionales BPBD de la province de Riau vole un hélicoptère de bombardière d'eau du type MI-8 pour résoudre les incendies de la terre et des forêts au réserve de biosphère Giam Siak Kecil. Le chef de l'Agence de gestion des catastrophes régionales, Riua Edward Sanger, a déclaré dimanche à Pekanbaru. L'hélicoptère qui commence à opérer à partir de la fin de mars 2016 a fait 50 fois de bombardements d'eau. Il a affirmé que les efforts visant à lutter contre les incendies de terre et de forêt avec les bombardements d'eau sur cet emplacement ont réussi à surmonter ces incendies. Sur la base des données de l'Agence de la météorologie, climatologie et de géophysique de Pekanbaru, Il y avait seulement un point de chaud dimanche soir, de 17 points de chaud dimanche matin. Pendant ce temps, le chef du Centre de la conservation des ressources naturelles de la région 2 de Riau, Supar Tono, a dit qu'il a demandé l'aide de l'Agence de gestion des catastrophes régionales de faire des bombardements de l'eau dans cette région parce qu'ils craignent les incendies des forêts et des terres ont le potentiel d'élargir. L'Indonésie sera l'hôte du 7e Moussabako de mémorisation du Coran et les hadiths MHQH du prince Sultan bin Abdul Aziz de l'ASEAN et le Pacifique qui aura lieu du 17 au 21 avril à Jakarta. Le but de cet événement est pour motiver les musulmans à mémoriser le Coran et le hadith ainsi que le contenu. Le prince Faisal bin Sultan bin Abdul Aziz, par déclaration officielle à Republika, récemment cible, Moussabako sera participé par 140 participants de 25 pays tels que l'Indonésie, la Malaisie, Singapour, le Timor-Leste, le Myanmar, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, le Kazakhstan, la Corée du Sud, le Cambodge, la Russie, la Bosnie et la Croatie. Moussabako est organisé en coopération avec Sultan bin Abdul Aziz Al Saud Foundation, avec le ministère des Affaires religieuses de la République d'Indonésie. Le marché indonésien qui est assez grand est une attraction pour les entreprises à investir. Le bureau de représentation du Conseil de coordination des investissements à Tokyo a identifié l'intérêt d'une société japonaise qui s'occupe dans le domaine de l'alimentation investira en Indonésie. Le chef du Conseil de coordination des investissements BKPM de l'Indonésie, Franky Sibarani, a affirmé que cet intérêt était accepté positivement par BKPM. Selon lui, les investissements japonais en Indonésie seront plus diversifiés, non seulement dans certains secteurs comme l'automobile. D'autres choses positives liées à l'intérêt de l'investissement et l'engagement de l'entreprise pour répondre aux besoins de matières premières à utiliser plus tard sont achetées de la société dans le pays. Basé sur les données de BKPM, la réalisation de l'investissement japonais en Indonésie en 2015 a augmenté de 6% par rapport à la période de 2014. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie. Sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Pour la rubrique suivante, écoutez la rubrique culturelle « Est-ce apprendre l'indonésien ?»
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien « Tout de beauté en Indonésie ».
Bonsoir à tous, retrouvons-nous dans votre rubrique quotidienne, le magazine culturel. Pour l'édition de ce soir, nous vous invitons à voyager à Papouasie. Restez toujours avec nous, la Voix de l'Indonésie, le service international de RRI. Outre par les écoutes, vous pouvez également écouter notre émission sur www.voi.co.id. Serviteur, le département de tourisme de la province de Papouasie développe le village de Guignem d'être l'une des destinations touristiques en résidence de Jayapura, en plus du lac Sentani. Ce village offre des activités d'observer directement les oiseaux de paradis, un oiseau typique de la Papouasie qui est l'un des animaux rares en Indonésie. Pour observer cet animal rare, vous pouvez participer au forfait touristique de cross-country. Selon le projet, ces forfaits touristiques seront également promus dans les activités d'exposition d'intérêt spécial à Singapour du 16 à 18 avril. Le thème est Land of Adventure ou Village d'Aventure. Le village de Gunyem est l'emplacement des forêts protégées, ce qui est un habitat pour diverses espèces d'oiseaux de paradis et d'autres oiseaux rares. C'est pourquoi l'activité principale dans l'attraction touristique est l'observation des oiseaux de paradis. Le moment idéal pour voir les oiseaux de paradis est environ à 5h et 16h heure locale. En observant les oiseaux de paradis, vous serez accompagné par un guide. Au village de Gunyem, il y a 5 guides touristiques et également un traducteur pour servir les touristes étrangers. Au village de Gunyem, les touristes peuvent voir diverses espèces d'oiseaux de paradis. Dans cette destination touristique, il y a aussi un étang de calibiru et des activités de tissage de noken ou un sac fabriqué à partir de la racine de bois dans les maisons traditionnelles appartenant à des résidents locaux. L'étang de calibiru est une rivière bleue claire. Cette rivière a la couleur bleue parce que les roches calcaires qui existent en dessous. La rivière est plus belle avec un paysage verdoyant à son alentour. En amont de Calibiru, il y a aussi une petite cascade où le courant d'eau n'est pas lourd. Vous pouvez jouer d'eau et nager dans l'étang de Calibiru. Serjuta, Gunyem est situé à la résidence de Jayapura en Papouasie. Pour y arriver, vous prenez juste un temps d'une heure en utilisant des véhicules à 4 roues de Sentani, capitale de la résidence de Jayapura. Sentani, à la distance de 33 km de Jayapura, capitale de la province de Papouasie. Pour passer la nuit, vous pouvez rester dans les maisons des résidents locaux ou dans le nombre d'hôtels à Sentani avant de visiter le site touristique. Avant de rentrer, vous pouvez acheter Noken, l'un des patrimoines culturels immatériels de l'UNESCO. Le prix varie de 50 000 rupiahs à plusieurs centaines de milliers de rupiahs, dépendant de sa taille. Chers auditrices et serviteurs, c'est le magazine culturel pour ce soir avec comme titre Le village de Gunyem en Papouasie. Demain, nous nous retrouverons avec un sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie. Sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Pour comprendre et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme « Aller ». Apprendre l'indonésien.
Bonsoir tout le monde. Retrouvons-nous de nouveau dans l'édition Apprendre l'indonésien. Dans l'édition cette fois, nous vous présentons une conversation intitulée Commotion, bagian pertama ou en français, au musée de la première partie. Alors, suivez-moi. Je vais tout d'abord introduire le vocabulaire et les expressions liées au thème d'aujourd'hui. Je dirai chacun deux fois et vous devrez les répéter après moi. Museum. Museum. En français, musée. Mengunjungi. Mengunjungi. En français, visiter. Mengantar. Mengantar. En français, accompagner. Pertama. Pertama. En français, première ou premier. Sejarah. Sejarah. En français, histoire. Koleksi, koleksi, en français, collection. Luar biasa, luar biasa, en français, remarquable. Misalnya, misalnya, en français, par exemple. Senjata, senjata, en français, arm. Porcelain, porcelain, en français, porcelain. Benda-benda, benda-benda, en français, objet. Meriam tua, meriam tua, en français, vieux canon. Terkenal, terkenal, en français, célèbre. Bis, bis, en français, bus. Nyaman, nyaman, en français, confortable. Ensuite, je vais vous donner un exemple de conversation intitulée Commotion, bagian pertama ou en français, au musée de la première partie. Comme d'habitude, je dirai le dialogue phrase par phrase deux fois lentement. Vous pouvez suivre après moi. Cette conversation est entre Nancy A et Annie B dans le hall de l'hôtel. A. Hari ini saya mau mengunjungi museum-museum di Jakarta. Hari ini saya mau mengunjungi museum-museum di Jakarta. En français, aujourd'hui, je veux visiter les musées à Jakarta. A. Apakah kamu bisa mengantar saya? Apakah kamu bisa mengantar saya? En français, pouvez-vous m'accompagner? B. Ya, tentu saja. Ya, tentu saja. En français, oui, bien sûr. B. Pertama, saya akan antar kamu ke Museum Sejarah Jakarta. Pertama, saya akan antar kamu ke Museum Sejarah Jakarta. En français, la première, je vais vous emmener au Musée d'Histoire de Jakarta. B. Museum itu disebut juga Museum Fathahila. Museum itu disebut juga Museum Fathahila. En français, ce musée est appelé aussi le Musée Fathahila. A. Apa saja yang bisa kita lihat di sana? Apa saja yang bisa kita lihat di sana? En français, que pouvons-nous y voir? B. Di museum itu kita bisa melihat koleksi yang luar biasa. Di museum itu, kita bisa melihat koleksi yang luar biasa. En français, dans ce musée, nous pouvons voir des collections remarquables. B. Misalnya senjata, porselen, dan benda-benda bersejarah lainnya dari Jakarta. Misalnya senjata, porselen, dan benda-benda bersejarah lainnya dari Jakarta. En français, par exemple, les armes, les porcelaines et d'autres objets historiques de Jakarta. B. Di sana juga ada meriam tua yang terkenal yang bernama Si Jagur. Di sana juga ada meriam tua yang terkenal yang bernama Si Jagur. En français, il y a aussi un célèbre vieux canon appelé Jagur. Ah, baiklah, mari kita berangkat sekarang. Baiklah, mari kita berangkat sekarang. En français, bon, allez-y maintenant. Ah, lebih baik kita naik bis Transjakarta karena lebih nyaman. Lebih baik kita naik bis Transjakarta karena lebih nyaman. En français, il vaut mieux que nous prenions le bus Transjakarta car il est plus confortable. Sajita, ainsi se termine votre programme Apprendre l'Indonésien. Nous espérons qu'il pourrait être utile pour ceux d'entre vous qui veulent en savoir plus sur la langue indonésienne. Nous vous retrouverons la semaine prochaine avec un sujet différent. Merci pour votre attention. Au revoir.
Comme la fin de notre émission, nous vous présentons la rubrique de distraction. Aujourd'hui, vous allez écouter les chansons à un rythme clanchant.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, salut les amis de la Voix de l'Indonésie, Radio République d'Indonésie. Voici le magazine de musique à la voix traditionnelle et moderne en Indonésie. Pour cette édition, on va vous présenter les chansons de clanchant. Et ce soir, avec la chanteuse Tutti Tristedia. Bon, chers amis, comme l'ouverture, on va écouter d'abord la chanson de Tutti Tristedia intitulée Bunga Anggrek. Bonne écoute. Thank you. Chers amis, la chanson de Bunga Anggrek ou Fleur d'Orchidée, créée par Ismail Marzuki, grand compositeur de l'Indonésie. La chanson dont le rythme de poème sont beaux. Les chansons de Jean de Kroncong ont beaucoup créé à l'époque de la lutte d'indépendance de l'Indonésie, c'est-à-dire aux années 40. Cette chanson raconte l'histoire d'une personne qui a la nostalgie avec sa petite amie. La floraison d'orchidée lui rappelle des beaux moments ensemble avec son amour. Chers amis, Tuti Mariati, ou mieux connu comme Tuti Trisedia, est née à Makassar, Sulawesi du Sud, au 8 octobre 1956. Mais elle a passé son adolescence ou sa petite dans l'ouest de Java. Son nom a commencé à être connu depuis le gagnant du concours de Bintang Radio et Télévision en 1986 pour la catégorie de Kroncong. Auparavant, elle a également remporté le premier prix de concours de Kroncong au Verse Marine et remporté le deuxième en Festival de Kroncong en 1983. Chers amis, avant de continuer notre rencontre avec Tuti Trisedia, écoutez encore la chanson intitulée Tanah Air. Bonne écoute.
Thank you.
Chers amis, cette chanson Tanah Air raconte la beauté naturelle de l'Indonésie. Les montagnes, rivières, jusqu'à la mer Bleue et la grande rizière, voilà, c'est notre richesse ou notre fortune de l'Indonésie. Chers amis, vous savez que Tuti Trisedia a dit qu'elle n'a jamais appris à chanter spécialement pour le rythme de Kroncong. Elle n'écoute que les chansons de grandes chanteuses Waldina et Sundari Sukoco. En 1988, Tuti Trisedia est devenue chanteuse au Palais d'État. En chantant devant les invités ou le premier ministre ou le président de l'État étranger. Pour elle, le Kroncong est la musique qui apaise l'âme. Et vous savez aussi, avec l'équipe culturelle de l'Indonésie, Tuti Trisedia a visité une dizaine de pays pour faire connaître le rythme de Kroncong. Elle a également aussi fondé Warung Kroncong Gaul comme rassemblement de jeunes chanteurs de développer leurs capacités, c'est-à-dire c'est le kiosque de Kroncong. De cette communauté, quelques jeunes chanteurs de Kroncong qui sont entrés dans le studio, comme Sriyono, qui est aveugle, mais il a la bonne foi. Chers amis, c'était Tuti Trisedia dans notre magazine de musique édition de lundi. Avant de terminer notre rencontre, écoutez d'abord deux dernières chansons de Tuti Trisedia intitulées Tinggi Gunung Seribu Janji, chanté par Tuti Trisedia. Merci de votre fidélité et attention, bonne écoute et au revoir.
Awesome.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie. Sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
C'est la fin de notre émission, ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt et au revoir.
Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4S5, Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 2011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.